Réplique, comprendre la crise de la gauche avec Marcel Gauchet et Henri Weber. Deux mois après avoir proclamé sur la couverture de l'Obs « Je suis prêt », François Hollande a renoncé à briguer un second mandat présidentiel. Depuis, les candidatures affluent aux primaires du Parti socialiste et des partis associés avec un seul mot d'ordre, le rassemblement et une immense envie d'en découdre. Celui qui sera finalement désigné à l'issue de cette bataille devra compter sur son flanc gauche avec Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise, et sur son flanc droit avec Emmanuel Macron, dont le premier grand meeting de campagne a contrasté par son succès avec celui que la Belle Alliance Populaire avait organisé au lendemain du renoncement de François Hollande. Bref, le quinquennat qui s'achève est sous le feu des critiques, la gauche n'a jamais été aussi émiettée, et même si en politique rien n'est jamais joué, les chances de l'un de ses représentants d'accéder au second tour de la prochaine élection présidentielle paraissent aujourd'hui très compromises. D'où la question simple et anxieuse que j'adresse à mes deux invités, Henri Weber, qui est directeur des études auprès du premier secrétaire du Parti socialiste chargé des questions européennes et qui publie « Éloge du compromis », et Marcel Gauchet, qui dirige la rédaction de la revue Le Débat, dont le dernier livre s'emploie à comprendre le malheur français. Que s'est-il passé à gauche? Comment en est-on arrivé là, Henri Weber?
Eh bien, d'abord, je dirais qu'on n'est pas encore arrivé. Il n'y a pas de candidat à gauche, de la gauche de gouvernement, enfin de la gauche qui sort de la primaire de la gauche. Alors attendons que ces primaires se déroulent, espérons qu'elles soient une réussite, c'est-à-dire que beaucoup y participent, que les sept qui participeront débattent, échangent des arguments plutôt que des horions, ce que je crois va se produire, c'est plutôt dans leur culture. Et qu'il en sorte celui qui sera le mieux placé pour barrer la route à François Fillon. À ce moment-là, on sera arrivé et on pourra faire le point. Et comme vous l'avez dit, en politique, rien n'est jamais écrit, et d'ailleurs surtout en politique contemporaine, puisque chacun des pronostics se trouve démenti. Mais, ayant répondu très brièvement et très superficiellement à votre question, je veux, pour y répondre plus profondément, poser l'ampleur du problème. Parce que la crise de la gauche n'est pas franco-française. C'est pas un phénomène hexagonal. On a affaire non seulement à une crise de la gauche européenne, mais à une crise de la gauche dans toutes les démocraties occidentales. Et je dirais même mieux, cette crise de la gauche est une dimension partisane de la crise de la démocratie. Alors, si vous regardez ce qui se passe en Italie, en Espagne, l'Italie c'était seulement la semaine dernière, Renzi qui a été le triomphal et qui apparaissait comme une figure du modernisme, qui a fait 40% aux élections européennes, bon, et il a perdu dans les conditions que vous savez. Et je pourrais faire le tour du propriétaire européen. Et c'est pas propre seulement à la gauche de gouvernement. Syriza, qui était un parti triomphant, aujourd'hui est évalué à 15% dans les élections, alors que la droite dépasse les 30%. Il y a une crise de la gauche, c'est une crise qui, à mon sens, n'est pas une crise d'agonie, comme le disent ceux qui prennent leur désir pour la réalité. Ce n'est pas non plus une crise d'acné juvénile ou d'adolescence, comme l'affirment les ravis de la crèche social-démocrate. C'est ce que je montre dans ce livre, c'est une crise de refondation. les coordonnées de l'action politique, l'écosystème économique, social, idéologique, culturel, organisationnel de la gauche occidentale a radicalement changé, et d'ailleurs pas seulement de la gauche, ça vaut pour les partis de gouvernement. Les partis de gouvernement de droite sont pas nettement en meilleur état. Pour eux, ça a moins d'importance. Mais ils sont aussi affectés. Regardez ce qu'il advient du Parti républicain aux États-Unis. C'est une crise de refondation. Et j'ajoute, ce n'est pas la première. C'est la quatrième, s'agissant des Français. Nous fêtons cette année, et même ce mois-ci, en décembre, le 111e anniversaire du Parti Socialiste. Bon, à 111 ans, le Parti Socialiste est le Benjamin de la bande. La social-démocratie allemande, elle a 155 ans, et les Nordiques, autant. Bon, nous avons eu la Commune de Paris, qui a écrasé toute une génération de cadres du mouvement ouvrier, qui fait qu'on a pris 30 ans de retard. Mais 111 ans quand même, et en 111 ans, on en a connu quelques-unes de crises de refondation. Je les analyse les unes après les autres dans le livre que j'ai publié. Et ce qui les caractérise, c'est qu'il faut refonder le parti, la formation politique, de la cave au grenier, c'est-à-dire sur le fond théorique de la compréhension du nouveau monde dans lequel nous entrons, sur le plan programmatique, où la réponse aux grands défis nouveaux auxquels nous sommes confrontés, sur le plan organisationnel, qu'est-ce que c'est qu'un grand parti réformiste de gouvernement dans le nouvel âge de la démocratie, et sur le plan des pratiques militantes.
Alors, simplement, quels sont les grands défis auxquels nous sommes confrontés, et semble-t-il auxquels, jusqu'à présent, la gauche n'a pas su répondre?
Alors, pas su, et surtout pas pu, parce qu'il y a aussi dans cette affaire, beaucoup, une crise des moyens. Bon, le premier d'entre eux est évidemment l'accélération de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie. La gauche, et notamment la social-démocratie, avait appris au XXe siècle, et surtout dans sa deuxième moitié, à maîtriser et à civiliser un capitalisme industriel et national. Elle est confrontée aujourd'hui à un capitalisme mondialisé et dominé par la finance. Ce n'est pas la même chose. Ça donne pas les mêmes prises. Le rapport de force entre le politique sous toutes ses formes, sous la forme des démocraties, des gouvernements démocratiques, sous la forme des partis, sous la forme des syndicats et des associations, le politique s'est considérablement affaibli par rapport aux détenteurs du pouvoir économique privé. Et si vous prenez le cas de notre malheureux gouvernement en 2012, quel était le problème incontournable et urgent? Éviter l'envolée des taux d'intérêt. Quand on a 1 800 milliards d'euros de dette, si le taux d'intérêt est à 2%, c'est gérable. S'il s'envole à 7 ou 8%, comme en Italie, en Espagne, et à 20% comme en Grèce, on est mort. On peut plus rien faire. Bien, donc ça c'était la première contrainte. L'acteur est contraint. La deuxième contrainte, c'est comment reconstituer les marges d'exploitation brute des entreprises qui s'étaient effondrées entre 2002 et 2012. C'est pour ça qu'on a fait le CICE. C'est pour ça.
C'est quoi le CICE? Le pacte de compétitivité, c'est ça?
Oui, c'est ça. Le pacte de compétitivité plus suite de responsabilité.
D'accord.
Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et c'est une façon aussi de répondre à votre question. Nous avons rapidement connu une grande impopularité, non pas parce que les gouvernements de François Hollande étaient passifs, inactifs, ne faisaient rien, mais au contraire, parce qu'ils prenaient beaucoup de décisions, mais que ces décisions étaient par essence impopulaires. Ce n'est pas le job des socialistes et de la gauche que de rétablir les comptes publics. Au contraire, ils sont là plutôt pour distribution générale. Et ce n'est pas le job des socialistes que de reconstituer les marges d'exploitation des entreprises. Mais l'intérêt général, l'intérêt national, et donc celui aussi de la gauche et des salariés, l'exigeait. Et nous avons été obligés de les faire précisément parce que la droite ne l'a pas fait.
Bien, alors, comprendre le malheur de la gauche, Marcel Gauchet, aidez-nous à le faire.
Je suis largement d'accord avec le diagnostic que vient d'établir Henri Weber. Il y a une dimension multiple dans la situation que nous connaissons. L'équation personnelle de François Hollande et son rapport au pouvoir, c'est évident, on en a beaucoup parlé. Il y a les particularités du socialisme français, dont la discussion remonte loin. Et puis il y a enfin, et là c'est le point essentiel, Henri Weber a tout à fait raison, une crise générale de la gauche partout dans le monde en réalité. On le voit par exemple aujourd'hui, Henri Weber ne l'évoquait pas, dans le contexte latino-américain, où c'est un élément très important de la situation. Cette crise, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, en effet, il y a des particularités qui à tous les niveaux de la situation européenne ou de la situation française. C'est une crise de l'imagination de l'avenir. La gauche a vécu profondément de l'idée, depuis deux siècles, qu'une société profondément différente était possible et que la tâche du mouvement ouvrier, et plus largement du mouvement démocratique, était de construire une théorie de la société qui permettrait d'aller vers cette société future complètement différente de la société bourgeoise dans laquelle nous vivions. Nous avons affaire aujourd'hui à une panne de l'imagination du futur et de la capacité de concevoir une société différente. L'idée par excellence de la gauche, c'était celle de la maîtrise du devenir qui allait nous conduire vers cette étape supérieure de la civilisation humaine, où elle mêlait justement progressisme, humanisme, indépendamment même des familles idéologiques plus caractérisées, indépendamment même du débat sur réforme ou révolution qui a traversé la gauche depuis la fin du 19e siècle. Il y avait ce pouvoir d'imaginer une société que nous pouvions anticiper et conduire de façon démocratique pour le socialisme démocratique, évidemment la social-démocratie. Or, aujourd'hui, d'un côté, nous avons une incapacité complète à nous représenter ce que pourrait être une autre société que la nôtre. Cela va de pair d'ailleurs avec l'ignorance du passé. Quand on vit dans le présent et qu'on n'a pas l'idée de la différence du présent et du passé, il est très difficile de se projeter dans un futur qui serait lui-même différent. Et d'autre part, nous vivons sous le signe d'une histoire subie. Des révolutions, il y en a beaucoup dans le monde où nous sommes, en effet. Mais ce n'est pas des révolutions que nous avons voulues et conduites, c'est celles qui s'imposent à nous. La dernière en date, typique, étant la révolution numérique. Mais nous avons eu avant la révolution capitaliste de la financiarisation qui a complètement bouleversé le visage du fonctionnement de nos sociétés, à tous les niveaux, avec tout ce qu'elle a entraîné, y compris comme pratique managériale, comme changement du travail, comme modification des rapports des sociétés entre elles. Donc, dans ce contexte de dépression, de la capacité d'action historique, puisque c'est ça, au fond, la gauche, fondamentalement, c'est la foi dans la capacité d'action historique de ce qu'on appelait les masses, qui n'existent plus non plus. Il n'y a plus de masse au rendez-vous. Hein. Les masses qui font l'histoire, eh bien, on ne les voit plus à l'œuvre. Et d'autre part, la capacité de dominer par la pensée, la réflexion, la théorie, le mouvement de l'histoire pour le conduire rationnellement. Tout ça s'est évaporé. Donc la tâche de refondation à laquelle nous appelle Henri Weber n'est pas mince.
Oui, mais quand même, l'un des mots-clés de la gauche et de son discours historique, c'est l'émancipation. La gauche se présente comme le parti de l'émancipation. Il me semble qu'elle continue à le faire. L'insistance sur les réformes que l'on appelle aujourd'hui sociétales du gouvernement Hollande a été très grande. On l'a vu avec le mariage pour tous. L'histoire apparaît aujourd'hui à une partie de la gauche comme le processus d'acquisition et d'élargissement continu des droits de l'homme. D'où d'ailleurs un certain rapport au passé fait de condescendance et de suspicion, puisque le passé, c'est avant les droits que l'on a pu conquérir. Donc le passé, c'est un peu quand même une grande noirceur. Et il me semble que la gauche n'a pas abandonné cette vision de l'histoire, même si elle l'a infléchie d'une certaine manière aujourd'hui, et c'est comme ça qu'elle construit ce que les Américains appellent le narrative, et elle a continué à le faire, et on le voit avec la popularité dont a bénéficié, dont continue à bénéficier à gauche, l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira. Marcel Gauchet.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut bien voir que ce mot d'émancipation est élastique et se prête à des acceptions assez différentes. Émancipation, initialement, par exemple, ça veut dire émancipation des nations. Le mouvement des nationalités, fondamental pour la gauche du XIXe siècle. Ça veut dire émancipation des peuples au sens de l'accès au suffrage universel, du droit de manifester leur opinion par rapport à une situation de subordination. Cela veut dire, surtout, émancipation collective. Le mot de socialisme est là pour signifier que, d'abord, il s'agit de trouver les moyens d'une maîtrise du destin collectif contre la soumission aux règles du capitalisme. Et puis, il est vrai que dans la dernière période, l'émancipation a basculé du côté des émancipations individuelles, qui n'avaient jamais été perdues de vue dans le mouvement socialiste. L'émancipation des femmes, c'est un vieux programme de la social-démocratie en particulier, mais les bolcheviks en Russie avaient, dans leur premier temps...
Alexandra Kollontai.
Sur ce plan, évidemment, poursuivi une politique tout à fait similaire. Après, le stalinisme était revenu remettre les choses un peu dans le courant de la tradition, disons, poliment. Mais dans la dernière période, il est tout à fait vrai que la dimension collective de l'émancipation a été perdue de vue pour des raisons très profondes et qu'il ne subsiste plus qu'une vision purement individuelle de cette émancipation qui oublie en route très facilement ce qui demeure une des questions béantes de nos sociétés, c'est le rapport au travail. Ou sur lequel, il faut bien le dire, l'imagination collective n'est guère en place. Donc, ce déplacement est l'une des raisons de la crise la plus immédiate telle qu'elle est ressentie de la gauche. C'est une crise de l'imagination, tout simplement, de ce qu'est une société. Et oui, une société est faite d'individus et nos valeurs modernes veulent que ces individus bénéficient de la plus grande liberté, de la plus grande protection, de leur sécurité, etc., qui bénéficient aussi d'une certaine justice entre eux. Mais la dimension libertaire, disons, de l'émancipation, a tendu à faire oublier toutes les autres. C'est un constat de fait où l'idée de société, qui est le cœur de l'idée de socialisme, que l'on sache, a disparu.
Henri Weber.
Sur ce point, je diverge avec mon ami et interlocuteur, Marcel Gauchet, parce que étendre les droits des individus n'est possible que si ces droits sont garantis par un ordre social, par une organisation. On ne peut pas opposer les deux. Et aujourd'hui, la préoccupation de comment organiser la société, comment la concevoir pour précisément permettre l'émancipation des individus. L'émancipation des individus implique une organisation collective, implique une relation sociale. Elle ne se fait pas dans l'abstrait. Et si je prends la gauche contemporaine, la social-démocratie européenne, elle a une représentation de la société. Alors, ce qui est vrai, et ce que je montre dans mon livre, c'est que la gauche social-démocrate et la gauche dans son ensemble a connu des âges. Elle est plus que séculaire, elle a connu des âges. Elle a connu, en effet, un premier âge qui était utopique et révolutionnaire. Et là, il y avait une conception de la société qui était la conception marxiste. La gauche socialiste, elle a longtemps été organisée au sein de la Deuxième Internationale. Bon, pendant des décennies. Et l'idéal, c'était le socialisme conçu comme un mode de production radicalement différent du capitalisme, fondé sur les moyens de production socialisés et la planification. C'était une société sans classe, sans oppression, sans État. Enfin bref, c'était une utopie. Bien. Et la méthode pour y parvenir était la méthode révolutionnaire. Je vous rappelle la parole de Marx, « Les armes de la critique ne sauraient remplacer la critique par les armes ». Pour tempérer ce propos excessif, l'excellent Juliède précisait en disant « Nous sommes pour la conquête du pouvoir par tous les moyens, y compris les moyens légaux ». Mais ça, c'est un demi-siècle de social-démocratie. La social-démocratie, et c'est sur ce point peut-être que je diverge avec Marcel Gauchet, la social-démocratie moderne diffère, parce qu'il y a eu pas mal de maturation, mais dans les années 30, en Scandinavie, et notamment en Suède, les Suédois assistant aux premières loges, aux horreurs de la collectivisation forcée en Russie, aux conséquences du bolchevisme, donc du communisme, on dit « il est possible, sous certaines conditions, de mettre l'économie de marché, la libre entreprise, au service de l'intérêt général, du progrès social, citoyen et culturel. Et ces conditions sont un mouvement ouvrier organisé puissant en syndicats, associations, partis, des institutions démocratiques également développées et une culture du compromis, une culture différente de celle de l'affrontement de principes. Et si ces conditions existent, alors on peut mettre la créativité de la libre entreprise et de l'économie de marché au service des biens. Et c'est ça l'essence de la social-démocratie moderne. Elle n'est plus anticapitaliste. En conséquence, sa conception de la bonne société a changé. Mais est-ce que elle en a pas pourtant ? Elle en a évidemment une. Je pourrais la résumer en trois grands objectifs. Le premier, c'est la démocratie accomplie. C'est le vieux mot d'ordre jaurésien. Le socialisme, c'est le maximum de démocratie. La démocratie, c'est le minimum de socialisme. Il y a consubstantialité entre le mouvement démocratique et le mouvement socialiste. Et donc, la démocratie accomplie. C'est-à-dire une démocratie à la fois représentative, sociale et participative. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est une économie maîtrisée. Les socialistes ne croient pas dans les régulations par la main invisible du marché et ses étranges tours de passe-passe. Et le troisième, c'est le principal à mon sens. Le socialisme, c'est d'abord un projet de civilisation. Il est porteur d'une conception de la société du bien-vivre, d'où l'importance qu'il accorde à l'école, à la formation continue, à l'extension du temps libre, au soutien aux créateurs, aux pratiques en amateur culturel. Bon, bref, tout ce qu'on appelle clairement les revendications sociétales dont vous parliez tout à l'heure.
Marcel Gauchet, et j'aurais beaucoup de questions à vous poser, Henri Weber. Marcel Gauchet.
Avec ce cadre général, il est difficile d'être en désaccord. Il faut toutefois bien observer que dans la période récente, qui remonte aux années 70-80, s'est produit une énorme inflexion de la marge de nos sociétés, ce qu'on peut appeler le tournant néolibéral. Je crois qu'il y a un large accord sur le constat. Après, l'interprétation des conséquences prête à discussion, en effet. Dans ce tournant, le changement idéologique a été radical, à mes yeux. Je dirais simplement, on a changé de logique dans la manière de penser cette articulation entre individus et société dont parlait Henri Weber. La démarche socialiste consistait précisément dans sa lutte d'origine contre le libéralisme, qui est le
économique.
Le libéralisme économique, et en effet, après il y a toute la discussion des rapports entre libéralisme économique et libéralisme politique que nous retrouvons aujourd'hui sous un nouveau jour. Je vais précisément y venir. La critique du libéralisme fondamental du socialisme, c'était l'idée que la société est la condition d'existence de l'individu et que donc on ne peut pas partir de l'individu. Il faut d'abord établir, ce qui a conduit d'ailleurs à des excès très regrettables, construire une société juste pour que la liberté individuelle s'épanouisse en son sein. Le tournant néolibéral que la social-démocratie européenne a absorbé, là on peut faire un procès historique sans y vraiment y réfléchir, il y a eu un déficit intellectuel très clair par rapport au mouvement historique en train de s'opérer pour des raisons qu'on peut discuter ensuite. En tout cas, le fait est, le tournant s'est traduit par un changement de grammaire intellectuelle du raisonnement. L'individu d'abord, la société ensuite. Et la société, de fait, comme résultante des interactions, des libertés individuelles. Alors, l'accent n'est pas le même entre la droite et la gauche, pour faire simple. Il est la droite, traditionnellement, et plus que jamais dans ce contexte, s'est investie dans les libertés individuelles sous l'angle économique, sous l'angle de la promotion des intérêts individuels. La gauche s'est investie plutôt de son côté sur les libertés individuelles. Mais la complicité de cette gauche qui a subi les événements bien plus qu'elle ne les a digérés intellectuellement et maîtrisés, avec le courant néolibéral qui s'est installé dans l'économie, lui a fait changer sa vision de la société à un point tel qu'aujourd'hui, en réalité, elle n'a plus vraiment de vision de la société bonne, de la société supérieure à la nôtre, à proposer qui serait mobilisatrice pour les citoyens dans nos sociétés.
Alors moi, je pense aussi qu'il y a une autre transformation très importante qui met la gauche en porte-à-faux. Vous dites qu'il y a une crise de la gauche dans le monde entier. Et cette crise coïncide, et ce n'est pas tout à fait un hasard justement, avec la montée de l'inquiétude identitaire. L'identité est au cœur de nos préoccupations. Nos préoccupations, et ce « nous », c'est la France, ce sont les sociétés européennes, c'est peut-être même l'Occident en général. Vincent Peillon, candidat de dernière minute, a été interrogé à la primaire, a été interrogé par Le Monde sur les enjeux identitaires. On lui a demandé s'ils seront au centre de la campagne. Il a dit, on veut nous imposer un débat identitaire, et je crois que ça a été une des erreurs du gouvernement, plutôt que de mettre en avant notre action économique et sociale sur l'éducation, le logement, la santé, l'environnement, nous sommes venus sur un terrain qui n'est pas le nôtre. Oui, mais c'est très grave de dire que ce n'est pas le nôtre, parce que la France se transforme du fait d'une immigration dont Marcel Gauchet a dit à plusieurs reprises qu'elle n'a été l'objet d'aucune décision démocratique. Hein, ça s'est fait. Voilà un changement qui, comme la révolution numérique, nous est tombé dessus. La France change. Les Français se demandent s'ils sont encore un référent culturel chez eux, la France, mais aussi la civilisation française. Et on a le sentiment que sur cette question, la gauche est très mal à l'aise et que sa tentation première, c'est précisément d'absorber la question identitaire dans la question sociale. S'il y a un problème identitaire, c'est parce qu'il y a de l'exclusion, de la ségrégation, du chômage, etc. Et la droite a tendance à prendre ce problème de front. Et c'est l'une des raisons de, peut-être, de l'impopularité de la gauche, et en tout cas, du divorce grandissant de la gauche avec ce qu'on appelle les classes populaires. S'il n'y a plus de masse, il y a des classes populaires, elles ne votent plus à gauche, et Terra Nova, une des associations de la gauche, a même théorisé ce divorce en disant qu'il faut construire une nouvelle coalition, une nouvelle majorité avec les minorités, les femmes et les jeunes, urbanisés, etc. Et on ne sait pas jusqu'où tout cela va nous mener. Henri Weber.
Que la question de l'identité et que la question de la sécurité, que ces deux questions soient devenues aussi importantes dans les préoccupations de notre électorat et des citoyens français en général, que les questions sociales et économiques, c'est un fait de constatation. Et comment en serait-il autrement ? Bon. La guerre s'est réinvitée en Europe.
Plus.
Elle avait disparu depuis 70 ans, à l'exception de la tragédie yougoslave. Bon, maintenant, elle s'est réinvitée en son cœur avec le terrorisme djihadiste, qui est très loin d'être fini, et sur ses marges avec le retour en force de l'impérialisme grand russe, dont on voit le niveau de cynisme en Syrie aujourd'hui. Bon, après qu'il ait avalé la Crimée et qu'il orne sur les pays baltes. Bon, que les questions de sécurité soit devenue très prégnante et que la gauche doit y répondre. Et d'ailleurs, elle le fait. Bon. C'est une évidence. Sur la question de l'identité, on comprend bien ce qui se passe. Bon. D'une part, il y a l'émergence des émergents. les Européens sont désormais 7% de la population mondiale. En 2030, ils seront 5% de la population mondiale. Bon, et les émergents se sont devenus maintenant des puissances économiques et géopolitiques absolument majeures. Et la conscience du déclin de l'Occident, du fait qu'il a cessé d'être le leader du monde, s'imprègne désormais dans toutes les consciences. Et en même temps, il est vrai que l'immigration a changé d'ampleur et a changé de nature, et que, évidemment, ce n'est pas terminé. Dans ce domaine, nous avons en France une doctrine, qui est la doctrine Rocard, que nous appliquons, c'est-à-dire... Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais nous en prenons notre juste part. Cette juste part, depuis 30 ans, c'est 200 000 immigrés non communautaires par an. Pas plus.
Plus les clandestins, quand même.
Oui, non, mais tout compris, tout compris. Parce qu'il faut aussi compter ceux qui reviennent. Bon, alors, on peut considérer qu'ils peuvent être intégrés. Et d'ailleurs, ça peut être... un des investissements les plus intelligents. Sur ce plan, il faut prendre exemple, non pas sur la première déclaration d'Angela Merkel, mais sur ce qui a suivi. Parce que lorsque Angela Merkel accueille 1 million de réfugiés, elle met sur la table immédiatement 10 milliards d'euros pour leur intégration, pour leur apprendre la langue, pour leur donner une qualification dont l'économie allemande a besoin, et pour les insérer dans l'économie. Bien, donc, ce sont des questions, évidemment, centrales. Et parmi les nouvelles questions auxquelles nous devons apporter des réponses, c'en est évidemment à ceci près que ces réponses sont évidemment nationales, mais principalement continentales. La maîtrise des flux migratoires et l'amélioration de l'accueil des réfugiés, ça se réglera aussi... par le contrôle de nos propres frontières au niveau européen. Et la question de la sécurité implique le développement d'une défense européenne. On ne peut plus sous-traiter la défense nationale aux Américains qui d'abord n'en veulent plus et ensuite sont occupés en mer de Chine.
Marcel Gauchet.
La réponse d'Henri Weber est à beaucoup d'égards comme le discours de la gauche de gouvernement en France sur tous ces sujets largement incantatoire. Dans la direction générale, comment être contre ? Mais une défense européenne, on la voit pas venir. On ne construit pas des armées après une phase de désarmement par décret. Il y a une armée européenne digne de ce nom dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est l'armée française. Le reste est à peu près inexistant du point de vue opérationnel face au type de menaces que nous avons. En effet, en tout cas, et l'autre point qu'il faut souligner, c'est que le point de vue que vient de développer Henri Weber est loin de faire l'unanimité parmi ses camarades. S'il y a un lieu de division dans la gauche française aujourd'hui, c'est assurément cette question de l'identité. J'enregistre avec beaucoup d'intérêt et d'approbation, d'ailleurs, je m'en réjouis, le fait que Henri Weber accepte de considérer que c'est une question essentielle et même centrale. On ne peut pas dire que ce diagnostic soit très partagé dans les rangs de la gauche. C'est même un de ces lieux de division majeurs. Et parce que, et là, nous voyons bien, c'est un point très intéressant, très significatif du mouvement intellectuel qui reste à accomplir. Ce que nous dit Vincent Peillon dans le texte que vous citiez témoigne évidemment du vieux fond économiciste qui est la doctrine de la gauche. Les seules questions importantes sont les questions économiques et sociales, parce que l'infrastructure détermine la superstructure, et si on résout les problèmes au niveau de l'infrastructure, le reste suivra. Bon, ce mode de pensée est toujours installé, et il est une des raisons de la crise intellectuelle de la gauche de gouvernement, et plus largement de toute la gauche en général, y compris la gauche morale ou la gauche radicale, qui sur ces questions campe sur un logiciel de base inchangé. Justement, je crois que l'une des tâches intellectuelles par excellence d'une gauche intelligente et retrouvant la capacité de créer la confiance parmi les citoyens, c'est de penser la nature de cette crise identitaire, qui pour la France est liée aussi, ne loupe paramètre important, à l'Europe. Comment est perçue l'Europe de façon très confuse dans l'esprit des citoyens? Comment en est-elle venue à être conçue? Comme une sorte de grille hors sol qui tombe d'en haut par rapport à des manières d'être, de faire, de penser qui ne sont pas les nôtres et dont on ne voit pas comment ils pourraient, qui méprisent les nôtres en plus, présentés comme ringards, archaïques, folkloriques dans le meilleur des cas, donc destinés à disparaître au profit d'une rationalité supérieure. Le mouvement dit de globalisation de la même façon a créé, alors je crois partout, et pas seulement en Occident, prioritairement, à cause du fait essentiel que rappelait Henri Weber, c'est le changement de rapport de force. Nous sommes habitués depuis l'aube de la modernité à être ceux qui sont en avant et qui dictent leurs lois aux autres, de manière aimable ou de manière violente. Mais dans tous les cas, nous sommes les leaders du monde. Nous ne le sommes plus et nous allons l'être de moins en moins. Situation qui n'est pas simple à négocier. Mais partout, la globalisation oblige les sociétés à une révolution mentale qui est de se définir par rapport à l'extérieur et un extérieur menaçant puisqu'il est fait d'une concurrence économique déchaînée et éventuellement de rapports de force, même y compris militaires, qui menacent gravement notre capacité tout simplement de gérer notre destin. Donc c'est ça la situation face à laquelle une gauche repensée devrait pouvoir faire face sans tabou, en mettant sur la table toutes les questions que cette situation soulève, alors qu'elle est, il est vrai, largement prisonnière, à la fois de catégories de pensée révolues et d'un tabou moral qui jette l'interdit sur toutes ces questions.
Alors à propos de ce tabou moral, justement, je voudrais évoquer des événements récents qui me semblent auraient dû susciter une réaction très forte partout, et notamment à gauche. Ce qu'on a appris lors d'un reportage de France 2, je crois, sur les mœurs s'installant à Sevran, les cafés de Sevran où les femmes ne sont plus les bienvenues. Ça a eu un impact énorme. Les gens, l'opinion a été saisie, tétanisée par cela, surtout que l'un des protagonistes de la scène filmée par France 2 disait « ici c'est comme au bled ». Et puis aussi, il y a quelques semaines, une série d'agressions contre les professeurs dans toutes sortes de lycées, à Calais, à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, à Coulommiers aussi, etc. Donc tout cela révèle une situation explosive dont il me semble que, du fait du tabou moral et du logiciel dont parlait économiste, dont parlait Marcel Gauchet, la gauche tarde à prendre compte, ce qui favorise bien sûr l'extrême droite, mais peut-être aussi la droite elle-même, parce que elle accepte de regarder cette réalité en face, ce qui est beaucoup plus difficile pour la gauche d'aujourd'hui, Henri Weber.
Non, ça, je ne crois pas. La gauche, genre, la gauche, vous savez, sur la question de l'ordre public, de l'ordre républicain, hein, parce qu'on dit il y a une demande d'ordre, d'autorité, d'accord, mais la façon dont nous répondons à cette demande, c'est la défense de l'ordre républicain, de l'ordre démocratique, de l'état de droit pour tout le monde. Ce ne sont pas les religions qui imposent dans l'espace public leurs prérogatives. Bon, bien, donc là, on est là dans un problème qui n'est pas dans un problème d'imagination ni de théorisation. On est dans un problème d'exécution. C'est pas facile. Bon, regardez l'affaire de l'aéroport de Nantes. Bon, là aussi, il y aurait lieu à se scandaliser. Bon, et moi, je me scandalise. Bon, mais bon, c'est un problème d'exécution. Tout le monde sait très bien où est la légitimité démocratique. Mais est-ce que, à quelques mois des élections,
ah oui, ça c'est vrai. Bon,
bien donc, il faut distinguer ça. Et ça me permet de faire un dégagement qui me tient à cœur. Bon, puisque Marcel Gauchet a porté un diagnostic en disant le principal problème, c'est une crise de l'imagination. D'abord, il faudra expliquer pourquoi il y a une crise mondiale de l'imagination à gauche. Parce que la gauche, c'est beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'élus, un énorme savoir, appuyé sur d'innombrables centres de recherche. Pourquoi elle a une crise d'imagination ? Bien, alors, donc, je nie pas qu'il faut théoriser le nouveau monde et que c'est pas toujours facile de le théoriser justement. Mais, moi, je voudrais insister sur un autre aspect, malheureusement beaucoup plus prosaïque et à mon avis tout à fait déterminant, qui lui explique la crise mondiale. Bon, c'est qu'il y a une crise des moyens. La gauche souffre d'une crise des moyens. Vous pouvez avoir les propositions les plus psychédéliques. Vous pouvez avoir l'analyse la plus fine, le programme le plus pertinent. Si vous n'avez pas les moyens de l'appliquer, vous êtes obligé d'appliquer la politique de vos moyens ou bien de vous confiner à la protestation. Le mouvement ouvrier socialiste l'a toujours su. Lorsque les intellectuels socialistes ont commencé à faire des propositions de réforme sociale, le mouvement, ils ont essayé de trouver une force matérielle sur laquelle s'appuyer. Ça a été le mouvement ouvrier et c'est ainsi qu'ont été créés les syndicats, les grandes confédérations, les mutuelles, les associations, les multiples associations populaires, le parti ouvrier de masse qui a été créé à la fin du 19e siècle par la social-démocratie. La social-démocratie, c'était 1,5 million, 2 millions de membres qui organisaient tout l'espace social. Il faut... C'était l'État démocratique moderne. Bon, ça a été l'État-providence. Autrement dit... Il faut, si on veut réaliser ce qu'on a imaginé, et que ça ne reste pas seulement dans l'imaginaire, il faut se doter les moyens. Alors, il faut porter le politique au même niveau de puissance et d'organisation que dont s'est doté le pouvoir économique privé. Sans quoi, on subira sa loi, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut faire l'Europe. Aussi difficile que cela soit, il faudra faire une défense européenne. Moi, si on m'avait dit, quand j'étais député européen, que la Banque Centrale Européenne rachèterait pour 80 milliards d'euros par mois de dettes d'État et d'obligations d'entreprise, je ne l'aurais pas cru, parce que ce n'était pas le cas. Eh bien, c'est devenu le cas. Et je crois aujourd'hui que nous nous doterons d'une défense européenne et d'une politique de sécurité européenne. Parce que sinon, nous serons plus défendus par personne, et personne n'y a intérêt, y compris parmi les classes dirigeantes les plus obtuses de l'Union européenne. Bon, donc, il faut créer le parti des socialistes européens, il faut créer le syndicalisme au niveau continental et même international, il faut se doter des moyens, sinon nos programmes resteront au niveau incantatoire en effet.
Marcel Gauchet.
J'aimerais beaucoup que la perspective que nous trace Henri Weber relève d'un avenir plausible. J'avoue que j'ai les plus grands doutes sur ce point. C'est notre divergence fondamentale, je crois.
C'est vrai.
Car l'Union européenne telle qu'elle s'est construite a abouti, en effet, par les règles qui ont été adoptées, que les Français ont mal gérées, particulièrement mal gérées, s'est traduite par un appauvrissement des États. Les choix, toute la doctrine libérale qui a présidé au dernier développement de la construction européenne a tendu à marginaliser les États et, qui plus est, par des choses peu techniques mais essentielles, à les priver de ressources fiscales. C'est le cas français tout particulièrement. Le fait est, il y a un appauvrissement général des États.
Mais est-ce
États.
Que c'est l'Union européenne ou est-ce que c'est la mondialisation ?
Non,
parce que ceux qui sont hors État, hors Union européenne, sont tout aussi appauvris.
Oui, c'est la, c'est la.
Google les... refuse de payer.
C'est l'idéologie.
Refuse de payer ses impôts partout, sauf en Irlande.
C'est l'idée. Oui, néanmoins, l'Irlande est en Europe, de la même façon que le Luxembourg. Et ces pays, ou dans une moindre mesure les Pays-Bas, et ces pays bénéficient, jouent le rôle de façon tout à fait délibérée de chevaux de Troie d'un principe général qui, en effet, vaut à l'échelle mondiale, qui est le principe néolibéral selon lequel l'essentiel de l'initiative créative en économie tient aux entreprises et où il s'agit de réduire le poids des États. C'est cette situation-là qu'il faut gérer. Et je ne vois pas comment l'Union européenne, telle qu'elle est construite aujourd'hui, telle que ses traités et son système de règles sont établis, peut permettre ce virage qui redonnerait des moyens aux États. Donc, de ce point de vue-là, mon scepticisme sur la capacité de l'Union européenne à fournir le cadre d'une reconstruction du socialisme est très grand.
Il me semble aussi que le problème identitaire se pose également à niveau européen. L'Europe, ce sont des normes, des procédures, des droits, mais ce n'est plus, et notamment aux yeux de ces peuples, la civilisation européenne. Le meilleur symbole de cette rupture, ce sont les billets de banque européens dont Régis Debray a fourni une description mémorable dans son dernier livre. Que voit-on sur ces billets ? Recto une fenêtre, verso un pont, fenêtres et portails illustrent l'esprit d'ouverture et les ponts l'idée de communication. 5 € une baie antique, un aqueduc, 10 € un portail roman, un pont de pierre, etc. 200 € une porte vidrée, un viaduc. Aucun nom propre, aucun portrait, aucune devise, ni date, ni lieu. C'est l'Euroland comme No Man's Land, No Science Land, The Land of Nowhere. L'Europe, c'est l'Euroland. C'est ce défaut de substance aussi dont on est amené à souffrir. D'ailleurs, ça s'est marqué par cette espèce d'élargissement perpétuel, par les négociations avec la Turquie. Certes, la Turquie ne répond pas aux critères actuels de l'Europe, puisqu'elle ne respecte pas les droits de l'homme et qu'elle va elle est sur le point de rétablir la peine de mort, mais en termes civilisationnels, la Turquie n'a jamais fait partie de l'Europe, et c'est comme si cette donnée civilisationnelle-là, l'Europe n'en voulait plus pour elle-même. Est-ce que c'est pas aussi un défaut fondamental et qui explique l'absence d'adhésion grandissante des citoyens à l'égard de l'Europe? Je me souviens de cette citation de Kundera, « Européen de point qui a la nostalgie de l'Europe ». Henri Weber.
Non, je crois que le projet européen est un projet de civilisation. C'est d'abord un modèle social. Et c'est un modèle de civilisation. Le modèle social, on le connaît. Bon, par exemple, l'Europe est le seul continent où les salariés ont droit à un mois de congés payés. Ça relève pas d'un modèle de civilisation, ça. Aux États-Unis, ils ont droit à 15 jours qu'ils ne prennent pas de peur de perdre leur place. Bon. Au Japon, n'en parlons pas. En Europe, parmi un grand nombre de directives sociales, il y a par exemple celle-là. Bon, bien, c'est une civilisation qui tient à défendre son idéal de civilisation, et ça se trouve dans tous les textes européens. Ça commence, elle se définit d'abord comme une communauté de valeurs. D'abord.
Oui, et elle refuse d'abord d'assumer ses racines chrétiennes. Ça, c'est encore.
Moscovici a repris
cette ancienne qui était déjà celle de Jacques Chirac et de
Lionel Jospin. Elle les assume, mais elle ne réduit pas la civilisation romaine à ses racines chrétiennes. Elle y inclut les Lumières, le rationalisme, la démocratie et tutti quanti. Je crois que, au contraire, tout cela va se renforcer. Et alors, je vous ai un autre exemple. C'est qu'il y a, malgré toutes les révolutions techniques, un modèle européen de l'audiovisuel que vous n'avez nulle part ailleurs. C'est le fameux modèle où il y a d'abord, en équilibre, un secteur privé qui se finance par la publicité et qui est un secteur marchand. Bon. Et puis un secteur public du même poids, et puisqu'on est à la radio ici, vous regardez ce qui se passe. La qualité du service public de la radio, France Culture, France Inter, et qui est de plus en plus écoutée. Moi, ça me rassure sur l'état de nos populations. C'est pas la régression vers l'irrationalisme et vers le qualunquisme, comme disent les Italiens, le n'importe quoi. Le fait que la matinale de France Inter ne cesse de monter, c'est un indice d'une certaine demande. Alors, il y a ce modèle audiovisuel qui vise à équilibrer, considérant que la compétition entre les chaînes commerciales et les chaînes de fonction publique tire l'ensemble du système audiovisuel vers le haut. Ça, ça existe dans toute l'Europe, en Allemagne, en Grande-Bretagne, partout ailleurs. Bon, donc, il y a beaucoup d'acquis civilisationnels et qui sont défendus comme tels. Je termine juste en disant que moi, j'étais porteur, quand j'étais député européen, de l'amendement qui a sorti la culture et l'audiovisuel du traité de commerce avec les Américains. Et nous, socialistes, nous sommes minoritaires au Parlement européen. Eh bien, contre le président de ma commission du commerce international, contre le président de la commission et du Parlement européen, cet amendement a été voté par les deux tiers des députés. Les deux tiers des députés, de gauche comme de droite, sont pour considérer que la culture n'est pas une marchandise et qu'elle ne relève pas d'un traité commercial. Parce que la culture, c'est là où s'enracine l'identité.
Marcel Gauchet.
Henri Weber est le plus civilisé des socialistes européens. Donc, son plaidoyer a la capacité de convaincre dans une certaine mesure. Ce dont il nous parle, c'est d'un héritage de l'histoire qui est bien antérieur dans ses racines à la construction européenne et surtout dans ses développements récents. La question qui nous est posée aujourd'hui est de savoir si l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle peut sans doute fonctionner différemment et je crois que c'est l'essentiel du projet que nous devons conduire pour les années qui viennent, mais avec la difficulté que nous aurons du mal à nous faire entendre. Mais la question qui nous est posée, c'est que dans son état actuel, l'Union européenne est un mauvais gestionnaire de cet héritage qu'elle ne développe pas et dont elle pousse plutôt dans le sens de son amenuisement progressif avec des prudences qui tiennent aussi au système institutionnel, à la manière dont elle fonctionne. Le modèle social européen, quand on lit la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, on n'a pas l'impression que c'est le souci principal de ces institutions de le défendre. On est en plein débat sur la directive travailleurs détachés, dont on voit bien la finalité. Elle ne peut pas dire qu'elle va dans le sens d'un modèle social préservé et amélioré. Donc là est l'un des grands défis qui nous attendent. Est-ce que nous sommes capables de, comme l'ont dit beaucoup de vos camarades de parti, remettre l'Union européenne sur les rails? C'est ce que nous pouvons nous souhaiter de mieux, mais c'est loin d'être acquis.
Bien, ben écoutez, terminons sur ce souhait qui vous réunit. Et j'ajouterais simplement, puisque vous parlez de l'audiovisuel, Henri Weber, qu'il m'arrive de regarder les concours de l'Eurovision. Je suis saisi d'une certaine tristesse parce que l'Europe, c'était le maximum de diversité dans le minimum d'espace. Et l'Eurovision, c'est l'apothéose de l'uniformité. Tous ces chanteurs qui hurlent en anglais et sur des musiques indiscernables. Bon, mais enfin, après tout, vous l'avez dit l'un et l'autre, on ne peut pas non plus résumer l'Europe à l'Eurovision.
Heureusement.
En tout cas, je rappelle les titres de vos livres. Henri Weber, Éloge du compromis. Le livre est publié chez Plon, Marcel Gauchet, Comprendre le malheur français, les entretiens avec Eric Conant et François Azouvi chez Stock, et j'annonce aussi la publication imminente, je crois, fin janvier, du 4e volume de votre grande entreprise, L'avènement de la démocratie. Ce livre s'intitulera Le Nouveau Monde. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site réplique franceculture.fr où l'émission est téléchargeable pour toujours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le phénomène Trump. Mes invités seront Laure Mandeville et André Caspi. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique, aujourd'hui, Jean-Richard Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.